Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis le début du mois de janvier, le Brésil a un nouveau président, Jair Bolsonaro. Alors on a beaucoup commenté sa campagne et sa victoire, signe d'un retour aux affaires d'une droite ultra-radicale, à grands coups de sorties toutes plus outrancières les unes que les autres. Bolsonaro est notamment passé maître dans l'art de la petite phrase homophobe, avec, derrière les mots, une violence latente qui terrifie une bonne partie de la communauté LGBT brésilienne, au point que certains se demandent même s'il ne vaudrait pas mieux fuir, tout simplement, quitter le pays et devenir des réfugiés du genre. Cette idée, elle nous a trotté dans la tête quelques semaines et on s'est aperçu qu'en réalité, au-delà du cas particulier du Brésil, ces réfugiés qui fuient les violences et les menaces qui pèsent sur leur vie en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, ils existent déjà en réalité. Ils sont en fait nombreux à avoir dû choisir l'exil pour ces raisons. Alors qui sont-ils ? Qu'est-ce qui les a poussés sur les routes ? Et comment sont-ils accueillis chez nous, en France, où le droit d'asile est par ailleurs en pleine mutation ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, un peu de droit, puisqu'il va en être énormément question au cours de cet épisode. La thématique de l'asile liée au genre suscite une vraie interrogation dans le milieu juridique. Elle est également un sujet de recherche. C'est le cas par exemple en ce qui concerne notre première invitée, Solène Champin. Elle est juriste, elle a travaillé sur le sujet et je lui ai demandé tout bêtement de quoi on parlait quand on parlait de migration liée au genre.
On parle des violences sexuelles, on parle du mariage forcé, on parle de l'excision, des persécutions liées à son orientation sexuelle, à son identité de genre, aux avortements forcés également. Voilà, c'est très très large.
Ça représente quoi en termes de population, enfin, je ne vais pas vous demander des chiffres précis, hein, de pourcentage, pas forcément, mais ça représente à peu près quel volume de personnes, les personnes qui sont forcées à l'exil pour ces raisons-là?
Alors aujourd'hui, de plus en plus, au tout début du droit d'asile, je vais dire, on va commencer dans les années 60-70, le droit d'asile, c'était surtout pour... Enfin, en France, en tout cas, on accueillait beaucoup d'opposants politiques, des hommes, opposants politiques qui venaient d'Amérique latine, de l'ancienne URSS, après, etc. Et puis, je dirais, peut-être plutôt dans les années 90, la migration a évolué, les femmes pouvaient migrer, avant elles ne le pouvaient pas, elles peuvent de plus en plus... Donc, depuis les années 90, on a un peu plus conscience, en tout cas, de ces problématiques-là. Et donc, on est plus amené à accueillir ce type de personnes.
Comment le droit a évolué vis-à-vis de ces questions-là ?
Alors, donc, voilà, comme je disais au début, c'était les lois liées à l'asile n'étaient pas du tout adaptées aux problématiques de genre. Donc, le droit d'asile est régi en France, premièrement, par la Convention de Genève, un traité international. Et la Convention de Genève dit qu'on va accorder le statut de réfugié à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée pour 5 motifs. Les 5 motifs, c'est la race, l'opinion politique, les opinions religieuses, sa nationalité et son appartenance à un groupe social particulier. Donc ça, c'est la convention qui régit notre droit d'asile en France. Ensuite, il est régi aussi par les directives de l'Union européenne et puis par des lois françaises. Donc là, on remarque bien que dans ces cinq motifs, il n'y a pas le genre. Et donc, dans les années 90, comme je disais, on a commencé à avoir conscience de ce manque. Alors notamment, c'est venu du monde militant et du monde universitaire qui a un peu dénoncé ce manque dans la Convention de Genève. Et donc, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies a rédigé des principes directeurs, mais seulement en 2002. Les principes directeurs, ça a pour but d'orienter les États qui traitent des demandes d'asile pour leur donner des indications sur comment traiter ce type de demande et aussi aider les autorités de l'asile à être un peu plus sensibles aux problématiques de genre. Donc au début, le droit d'asile n'était pas prévu pour les problématiques de genre et en fait, il a évolué. Par les principes directeurs et en France aussi par les jurisprudences. Les jurisprudences, c'est des décisions constantes qui sont prises par la Cour nationale du droit d'asile qui vient définir petit à petit les critères pour avoir le statut de réfugié quand on a fui son pays à cause de persécutions fondées sur le genre. Mais ce n'est pas encore abouti.
Est-ce qu'on sait d'où viennent majoritairement, de quelles zones géographiques viennent majoritairement les personnes qui demandent asile pour des problématiques liées à leur genre ?
En France, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, Afrique francophone et non francophone, du Moyen-Orient également. On a quelques personnes quand même qui viennent d'Amérique latine, mais ça reste limité. Je pense pour des raisons de distance géographique, les routes migratoires sont plus difficiles. Mais on a aussi des personnes qui viennent de Russie, de tout le Caucase. Et puis, on a tous ces pays, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie, tout ça. On en a aussi beaucoup. On est très proches. Et puis c'est quand même des pays dans lesquels les persécutions fondées sur le genre restent très présentes.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de la qualité de l'accueil de ceux que nous, on a baptisé les réfugiés du genre en France ? Comment ils sont reçus ?
Alors, premièrement, juridiquement, quand on les reçoit juridiquement, c'est-à-dire qu'ils vont, en fait, ils vont demander l'asile, ces personnes-là vont demander l'asile, on va instruire leur demande d'asile et ensuite on décide si on leur donne le statut de réfugié ou pas. Si on leur donne pas, ils sont renvoyés dans leur pays. Si on leur donne, ils peuvent rester minimum 10 ans en France. Ils sont donc protégés. Donc, quand on demande l'asile, on demande l'asile devant d'abord l'Office français de protection des réfugiés apatrides, une administration. On va là-bas, on se présente, on explique pourquoi on a fui son pays. Et si on a un rejet, on a le droit de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est donc une juridiction qui est rattachée au ministère de la Justice. Et cette juridiction décide si oui ou non elle accorde le statut de réfugié. Et là, à partir de là, la procédure est finie. Le traitement des demandes d'asile liées au genre est particulier. Il dépend en fait beaucoup de la personne qui va instruire. Donc à l'OFPRA, la première étape, les personnes rencontrent un officier de protection. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fonction de la sensibilité au genre de cet officier de protection, l'instruction de la demande d'asile va être vraiment, vraiment très différente, va vraiment varier. On observe des officiers de protection qui ont encore beaucoup de préjugés de genre. J'ai beaucoup d'exemples, mais je pense notamment aux demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle. On a des officiers de protection parce que nous, après, dans les cabinets d'avocats, on a accès au compte-rendu de cet entretien. On peut voir les questions qui ont été posées. Et on a, par exemple, des questions... En fait, les officiers de protection cherchent à établir la réalité de l'homosexualité. Ils veulent... Parce qu'en fait, on cherche les menteurs. On cherche à savoir s'ils mentent ou pas. Donc, on va leur demander, êtes-vous, par exemple, actif ou passif ? Ce genre de questions qui sont extrêmement intimes et peut-être pas forcément nécessaire pour établir une orientation sexuelle ou une relation homosexuelle. On a beaucoup de questions comme ça et qui, premièrement, vont heurter l'intimité du requérant. Et puis, repose sur des stéréotypes vraiment très très importants. Donc on observe ça au niveau de l'accueil juridique, on va dire l'instruction des demandes d'asile repose sur beaucoup de stéréotypes. Je pense aussi aux femmes, par exemple, qui ont fui des violences conjugales. On leur reproche souvent de ne pas être allées voir les autorités de leur pays. Alors c'est déjà difficile pour certaines femmes en France. Alors dans des pays dans lesquels la violence conjugale n'est absolument pas vue comme un problème, on peut comprendre que c'est compliqué. Donc en fait, l'instruction va reposer parfois, je dis bien parfois, il y a des personnes, des juges qui sont très sensibilisés aux questions de genre, mais parfois ça va reposer sur des stéréotypes très importants qui peuvent nuire finalement aux demandeurs d'asile. Ensuite, au niveau de l'accueil en France dans la vie de tous les jours, ces personnes-là, on les accueille, elles ont le droit de recevoir un petit peu d'argent, mais ça va aller. Donc elles reçoivent l'allocation pour demandeurs d'asile, qui est quand même pas très importante. Ils reçoivent entre 200 et 400 euros par mois en fonction de s'ils sont accueillis dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou pas. Donc voilà, au niveau de l'accueil, du coup, certains sont en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'autres sont à la rue. Donc en fait, c'est très très variable. Par contre, les personnes qui expliquent aux autorités françaises quand elles arrivent qu'elles ont vécu, je sais pas, des violences sexuelles ou qu'elles ont été persécutées en raison de leur identité de genre, ces personnes-là, on peut, souvent, les autorités françaises ont la capacité de les signaler comme vulnérables et donc de leur permettre d'avoir un suivi peut-être un peu plus poussé, c'est-à-dire leur permettre de rentrer donc dans un CADA ou de rentrer dans un foyer spécialisé pour les victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Il existe des foyers créés par des associations qui sont spécialisées sur la question, donc elles vont vraiment bien être accueillies. Mais voilà, en fait, c'est très, très variable, c'est au cas par cas et c'est aussi en fonction de la ville dans laquelle les personnes vivent, parce qu'il faut savoir que les demandeurs d'asile sont sur tout le territoire français. Donc voilà. Après, pour finir sur l'accueil, si elles en font la demande, ces personnes-là peuvent être suivies par un psy, donc de manière gratuite. Mais comme il y a très peu quand même de psychologues qui sont en tout cas subventionnés par l'État, gratuits pour eux, ça prend du temps de commencer un suivi avec un psychologue. Alors que souvent, les personnes arrivent en France en pleine détresse et c'est le moment où elles ont besoin. Et peut-être le moment aussi où elles ont besoin d'un suivi psychologique pour peut-être permettre de verbaliser certaines violences et être prêt à les expliquer ensuite au juge de manière assez claire pour qu'il les croie.
Est-ce qu'il manque du coup dans notre panel législatif un dispositif ou en tout cas un parcours spécifique à ces questions de genre ?
Alors je pense que oui, ça aiderait beaucoup de... Par exemple, dans la Convention de Genève, on a bien remarqué que les 5 motifs pour lesquels on peut demander l'asile, dans les 5, il n'y a pas le genre. On met souvent le genre sous la catégorie appartenance à un groupe social particulier. Mais on n'a pas le genre, et ça a été décidé, c'est définitif, jamais on ajoutera le genre dans les motifs pour demander l'asile. Bon, ça aurait pu aider, mais ce ne sera pas le cas. Ensuite, pour ce qui est du traitement des demandes d'asile, ça se fait, c'est en train de se faire. Alors, un dispositif particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, continuer la formation des autorités qui instruisent les demandes d'asile pour qu'ils soient tous sensibles aux persécutions de genre, aux problématiques de genre, à ce que ça implique, et aux stéréotypes qui sont très, très, très souvent rattachés. Et ensuite, au niveau de l'accueil, comme je disais, dans les centres, le suivi psychologique, etc., c'est en train de se mettre en place, mais c'est en fait, les lois écrites disent explicitement qu'il faut prendre en compte les vulnérabilités liées au sexe, liées aux violences sexuelles subies, liées à l'orientation sexuelle, liées à l'identité de genre. Ça, les règles le disent, les directives de l'Union européenne le disent. Après, c'est la mise en pratique, en fait, qui, selon moi, est plus lacunaire.
À quoi elles ressemblent ces formations, justement ? Elles existent, ces formations, pour les juristes qui sont confrontés ou pour les officiers qui sont confrontés à ces questions. À quoi elles ressemblent ? Ce sont des stages de sensibilisation, des moments d'écoute ou je ne sais pas, à quoi ça ressemble ?
Oui, alors l'OFPRA a mis en place depuis plusieurs années des groupes de travail avec des référents selon des thèmes. Donc on va avoir le thème traite des êtres humains, on va avoir le thème orientation sexuelle. Alors ils vont rencontrer les associations, ils vont discuter de ces thèmes-là, rédiger des rapports sur ces thèmes-là. Donc ça commence à être de plus en plus solide, on va dire. Au niveau des juges, ils ont aussi des formations. Ça se fait petit à petit. Après, je pense qu'en fait, l'instruction d'une demande d'asile est très liée aussi à nos propres préjugés très personnels et que donc on va recevoir de manière plus ou moins efficace ce genre de formation et ce genre d'instruction et que donc certaines personnes vont finalement garder leurs préjugés. Enfin, je pense aussi aux juges. On a des juges qui sont peut-être un peu plus âgés et qui, du coup, ont des préjugés portent des préjugés depuis un certain temps. Donc, c'est le temps de déconstruire ces préjugés, ça reste long. Mais en tout cas, oui, des groupes de travail sont mis en place et puis beaucoup de rapports.
Pour aller plus loin, sur le terrain, c'est vers les associatifs que le sujet nous emmène, parce que ce sont eux qui, au quotidien, suivent les demandeurs d'asile. C'est ce que fait notamment l'association Cali, qui s'adresse pour le coup essentiellement aux femmes qui ont choisi l'exil pour fuir des violences liées à leur sexe. Je suis allé à la rencontre de Marion Jobert, la déléguée générale de Cali, et je lui ai demandé ce qui concrètement poussait ces femmes à l'exil.
Les raisons de l'exil pour ces femmes, c'est donc des raisons qui sont liées au genre, c'est soit fuite d'un mariage forcé, qui était préparé ou qui a été consommé, donc voilà, avec tout ce que ça sous-entend. Ça, c'est la première raison. Et l'autre raison, c'est aussi tout ce qui concerne l'excision. Et en général, la migration se fait au moment où la femme est enceinte d'une petite fille ou accouche d'une petite fille. La femme a elle-même été excisée, donc a vraiment une histoire par rapport à ça, et souhaite protéger sa fille de l'excision.
De quelle zone géographique elles viennent, ces femmes qui s'exilent ?
Pour le moment, le groupe qu'on a, c'est une grande partie des femmes ivoiriennes. On a aussi des femmes qui viennent du Sénégal. On a travaillé avec des femmes qui venaient du Soudan, de Somalie, d'Éthiopie. En ce moment, il y en a moins. On n'a jamais vu à Cali de femmes syriennes. On a vu très peu de femmes afghanes. Et en revanche, on a vu aussi des femmes d'Amérique du Sud, donc du nord de l'Amérique du Sud, Colombie surtout. On a aussi vu des femmes Afrique du Nord, bien sûr. Alors là, c'est pas tout à fait l'exil tel qu'on en parle actuellement. Ça va plus être, ce sera pas l'asile, en tout cas, ce sera plus le titre de séjour. Mais ça concerne aussi un mariage forcé, un mari violent, voilà.
Quel est le cadre juridique proposé par la France pour protéger ces femmes ?
Alors, on parle de l'asile, là ?
Oui.
Ouais. Le cadre juridique. Alors, en gros, c'est vague, enfin, c'est large comme question.
Tout à fait. Un peu précis.
Alors, je vais faire une information neutre de juriste, et puis peut-être que plus tard, je donnerai mon avis. Mais en gros, le cadre juridique, c'est donc quand les femmes arrivent, elles ont un certain temps pour déposer une demande d'asile. D'ailleurs, temps qui a été réduit par la loi de 2018. Et elles doivent donc faire une demande auprès de l'OFPRA. Donc, bon, avant ça, elles doivent aller à la préfecture. Enfin, c'est des méandres administratifs très compliqués auxquels, souvent, elles n'ont pas, elles n'ont pas l'information. Donc, c'est encore plus compliqué pour elles.
L'OFPRA, c'est l'Office de préservation
français de protection des réfugiés apatrides. Voilà. Donc là, c'est une autorité administrative qui est chargée d'étudier une demande d'asile. Demande d'asile qui doit être fondée sur la crainte de persécution en cas de retour dans le pays d'origine. L'OFPRA se prononce sur l'asile. L'OFPRA peut aussi accorder ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Donc là, c'est pas des persécutions en cas de retour, mais ça va être des menaces de mort, de torture, de traitement inhumain ou dégradant. La protection subsidiaire, c'est 1 an. L'asile, c'est 10 ans. Une fois que l'OFPRA s'est prononcée, soit la personne a le statut de réfugié et tant mieux, soit elle ne l'a pas. Et à ce moment-là, elle peut faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui est à Montreuil, il n'y en a qu'une en France, et qui, la Cour nationale du droit d'asile, est chargée de réétudier en fait la demande et se prononcer soit dans le sens de l'OFPRA, soit dans le sens de la personne qui a demandé l'asile, qui s'est vu rejeter le statut de réfugié. Ça, c'est le cadre juridique le plus neutre possible. Après, j'aurais plein d'autres choses à dire sur le cadre. Bon, voilà. Est-ce qu'on parle du cadre juridique ? Est-ce qu'on parle du cadre plutôt social, humain, voire humaniste, quoi ? Ça, on a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que, évidemment, en parallèle de tout ça, il y a un manque de compréhension, un manque d'information, un manque de temps, évidemment, pour préparer le récit. Et on a, à partir du moment où on s'est enregistré et qu'on reçoit le formulaire pour l'OFPRA, les personnes ont 21 jours pour déposer le dossier. Et pour souvent revenir sur une histoire qui a commencé des années en avant, notamment quand on parle de l'excision, il faut que la femme revienne à sa propre excision. Enfin, c'est très long. Évidemment, elles sont dans des états traumatiques en raison de ce qui a été vécu dans le pays d'origine, mais aussi de tout ce qui a été vécu pendant l'exil. Je ne vais pas détailler, tout le monde sait ce qui se passe. 100% des femmes avec lesquelles on travaille, et c'est d'ailleurs l'objet de l'association, ont subi des violences ou de la vulnérabilité en raison du sexe. Donc il y a eu des viols, des agressions, toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça contribue à les plonger dans un état traumatique dont il est très difficile de se dépêtrer pour faire une demande d'asile qui est quand même basée sur la vérité.
Quel levier vous pouvez actionner au sein de Cali et des autres associations pour faire bouger les choses? Est-ce qu'il y a des actions envisagées? Est-ce qu'il y a des moyens de pression possibles sur le gouvernement pour faire bouger les choses? Ou est-ce que c'est un combat pas perdu d'avance, évidemment, heureusement que non, mais ou est-ce que les armes manquent un peu là aussi?
Alors, c'est une bonne question. Comment on fait quand on est une asso? Alors déjà, il faut savoir qu'en général, quand on est une asso de droit des étrangers, on est très mal vu. On est parfois vu comme les grands méchants qui... je ne sais plus qui a déclaré ça récemment, mais quelqu'un du gouvernement a déclaré que les associations, on aidait au maintien illégal sur le territoire. Bref, un truc super violent. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Nous, on ne fait que aider les femmes à avoir accès à leurs droits. Comme il y en a plein, des associations. Donc on est un peu le grand méchant loup. Par ailleurs, le gouvernement, s'il avait envie de nous entendre et de nous écouter, il y aurait eu plus de consultations. Il n'y en a pas eu beaucoup, voire pas du tout. Donc le seul moyen qu'on a, c'est qu'en fait, nous, on est une association donc, qui travaille pour les droits des femmes exilées. On a premièrement un travail de terrain, deuxièmement un travail de sensibilisation. Donc on fait des enregistrements, des podcasts comme maintenant. On organise des conférences. On essaye de... Enfin voilà, on a les réseaux sociaux aussi. On a un Facebook, on a un Instagram. On essaye de faire parler. Et en fait, on pense que c'est un peu... Enfin, selon nous, la solution la plus à notre portée, en fait, c'est de toucher l'opinion publique. Et qu'il y a un peu une vague d'indignation, comme il y en avait une en septembre 2015 pour le petit Eylan qui avait été retrouvé mort sur la plage. Voilà, là, il y a eu une vague d'indignation. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces vagues d'indignation? C'est ça, c'est... Parce qu'une vague, enfin, l'émotion, ça monte et ça redescend aussi vite. Donc après, il faut réussir à entraîner les gens dans une dynamique où on essaye de faire changer les choses. Voilà.
Vous qui avez un regard un peu, on va dire... transversale, transnationale, on va dire, sur la situation des femmes dans le monde. Est-ce qu'elle empire? Est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent? Est-ce que vous voyez les choses évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens en fonction des profils auxquels vous êtes confrontés?
Je sais pas, parce que moi je suis pas très vieille et qu'il y a des choses que je ne sais pas sur comment était le monde avant, forcément. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de prise de conscience de la part de la communauté internationale sur ce que les femmes subissent parce qu'elles sont des femmes. Après, il y a toujours un petit peu de scepticisme là-dessus, hein, notamment toutes les campagnes de harcèlement dans les transports en commun. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, on en parle. Enfin, on en parle depuis des années. Donc là, on a l'impression que les gens, comme ça les a fouettés en plein visage, ils se sont dit « Ah bah oui, bien sûr, ça existe, voilà ». Après, l'année dernière, par exemple, alors l'année dernière, on est en 2019, donc en 2017, on avait assisté, la Commission européenne organise chaque année un congrès sur les droits fondamentaux. En 2017, c'était sur les droits des femmes dans les temps, c'était Turbulent Times, enfin dans les temps troublés, voilà. Bon, c'était intéressant, il y avait plein de monde, on avait beaucoup discuté. Après, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est toujours la question. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une société civile qui est très consciente de ce qui se passe et qui agit sur le terrain. Après, la question, c'est quel est le relais qui est fait avec les différents pouvoirs exécutifs dans les différents pays? Et là, j'ai l'impression que ça pêche encore un peu. Y a pas encore, la passerelle n'est pas encore tout à fait bien établie. Et c'est ça qui est dommage.
Comment les gens qui nous écoutent et qui seraient touchés par la démarche de Cali et la défense des droits des femmes de manière générale peuvent soutenir les associations comme la vôtre? Comment est-ce que chacun peut aider, on va dire, à son niveau? Est-ce qu'il y a des moyens de soutenir le travail que vous faites?
Alors oui, il y a plusieurs moyens de soutenir. Premièrement, bon, il y a des gens qui deviennent bénévoles, bon, des gens qui sont en Île-de-France, du coup c'est plus pratique. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils sont trop loin. Et il y a les dons, en fait, en argent. Alors, on dit toujours un petit mot là-dessus, parce que les gens n'aient pas l'impression qu'on veut prendre de l'argent. Bon, déjà, on est une association à but non lucratif, donc voilà, on est une association qui n'a pas de salariés, on est tous bénévoles, enfin, toutes bénévoles, même le conseil d'administration. Donc voilà, il n'y a pas d'argent qui circule entre nous. Les dons en financiers permettent de créer pour nous des kits, on appelle des kits d'hygiène, enfin des kits de première nécessité pour les femmes et pour leurs enfants, avec des couches, avec du sérum physiologique, avec de la crème hydratante, du savon, brosse à dents, enfin voilà, qu'on distribue une fois par mois. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire des dons matériels, et ça, c'est très gentil, mais en fait, on n'a pas de bureau, on n'a pas de locaux, donc on ne peut pas stocker. Moi, ma cave, elle est pleine, archi-pleine, il n'y a plus rien qui rentre. Parce que finalement, les dons de vêtements, ça demande beaucoup de travail, parce qu'il faut laver, regarder, voilà. Donc ça, on ne prend pas. On préfère prendre l'argent et après, voilà, créer ces kits et les distribuer une fois par mois. Après, ce que les gens peuvent faire tout simplement, c'est suivre. Donc, on a un Facebook, c'est Asso Cali. On a un Instagram aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis voilà, en fait, la question, ce n'est pas tellement nous aider, nous, c'est plutôt aider les femmes pour lesquelles l'association travaille. Et donc, il y a à la fois du concret, c'est-à-dire du terrain, les kits, devenir bénévole, voilà. Mais il y a aussi de contribuer à sensibiliser l'opinion publique de manière toujours plus large.
Et par ailleurs, les associatifs travaillent ensemble pour interpeller et dialoguer directement avec les pouvoirs publics pour tenter d'initier un changement dans la loi afin que ces questions soient réellement et efficacement prises en compte. Merci à Solène Champin et Marion Jobert pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauriane Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.